Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti. Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma voix du matin. Je me suis levée tôt aujourd'hui pour vous enregistrer cet épisode, en tout cas plutôt que mes voisins, parce que l'enregistrement des deux derniers épisodes de podcast, c'était un peu l'enfer entre les chiens de la voisine du haut, qui sont tout seuls je pense l'après-midi et qui du coup aboient et hurlent, et la petite voisine à côté qui elle aussi hurle. C'était un peu compliqué d'enregistrer, j'ai fait au maximum pour couper au moment où il y avait du bruit, mais c'est pas toujours évident. Qui se souvient quand même quand on habitait en Australie et le bruit de fond des podcasts, c'était les oiseaux. Ici à Barcelone, à part les pigeons, les mouettes, on n'a pas grand-chose. Bref, dans l'épisode d'aujourd'hui, on ne va pas parler d'oiseaux, même si j'adorerais vous partager ma passion pour l'ornithologie. On va parler du petit tyran que beaucoup d'entre nous avons dans notre tête. De cette petite voix intérieure qui commente tout ce qu'on fait, qui juge tout ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, qui nous dit qu'on n'aurait pas dû faire ça, qu'on est ridicule, qui nous dit tu devrais faire plus, tu devrais faire plus de sport, tu devrais lire plus, tu devrais manger plus sain et regarde ton corps, et regarde elle, elle est plus jolie que toi, et cette collègue, elle est meilleure que toi, toi tu n'es pas légitime, t'es nul, t'es incapable de te discipliner, et pourquoi tu te sens encore triste, pourquoi t'es à plat, c'est quoi encore ton problème? Et si ça continue, ton mec ou ta meuf va finir par te quitter. Tu devrais passer plus de temps avec tes enfants, t'es pas une assez bonne mère. Et ta mère d'ailleurs, tu l'as toujours pas appelée. Tu pourrais quand même être plus présente pour tes amis. Et oui, on t'a félicité sur ce dossier, mais franchement, ils doivent pas avoir beaucoup d'attentes parce que c'était pas exceptionnel. Bref, on a ce petit juge dans la tête qui relève chaque pas de travers, qui rumine dès qu'on fait un écart, dès qu'on fait une erreur, qui nous critique dès qu'on n'est pas parfaite, en fait. Et parfois, on ne s'en rend même plus compte. On a tellement l'habitude d'entendre cette petite voix, on a tellement l'habitude de fonctionner comme ça, de se parler comme ça, qu'on ne réalise même pas à quel point on peut se dire des choses dures, à quel point on peut avoir des paroles blessantes envers nous-mêmes, des paroles dévalorisantes, à quel point on se dit des choses qu'on dirait jamais à un autre être humain. Honnêtement, pour discuter avec vous au quotidien, notamment via Instagram, je sais que la communauté du podcast, que les auditeurs et les auditrices du podcast, vous êtes des gens bienveillants, ouverts. Alors imaginez dire à quelqu'un « Mais t'es conne, pourquoi t'as dit ça? Mais qu'est-ce qu'il va penser de toi ?» Non, jamais on dirait ça. Et pourtant, on se le dit à soi-même sans problème. Et je le vois aussi au quotidien avec les clientes que j'accompagne, la différence entre leur bienveillance, leur gentillesse vers les autres et leur dureté envers elles-mêmes. Mais c'est assez fou. Et parfois, c'est tellement ancré qu'on ne réalise plus à quel point ça nous fait du mal. À quel point ce dialogue intérieur est pesant, à quel point ça nous fait ressentir de la honte, de la culpabilité, de la peur, du doute, on se sent pas à la hauteur, on se sent pas assez, on se sent illégitime, ça nous génère de l'anxiété, on sent dans la poitrine que ça bloque. En tout cas, moi, c'est ce qui se passait, c'est quand je me parlais mal comme ça, je me sentais juste mal, le souffle court, et puis ça nous fait perdre confiance en nous, ça vient abîmer notre estime de nous. Ça vient abîmer notre relation avec nous-mêmes. Parce que comment s'aimer quand on se concentre toujours sur le négatif? Quand on se concentre sur ce qu'on ne sait pas faire, sur ce qu'on a raté, sur ce qui ne va pas chez nous. Et qu'on oublie, par contre, on évacue rapidement nos réussites, on oublie nos victoires. On n'arrive pas forcément à se féliciter quand les choses vont bien. On va trouver quelque chose, de toute façon, qui n'allait pas si bien que ça. On voit, en fait, que ce qui ne va pas chez nous, ben ça vient aussi plomber notre confiance en nous. Comment oser faire des choses, comment oser prendre des décisions, comment oser être soi-même si on se dit constamment qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas assez. Ce genre de pensée, ça vient nous bloquer, nous faire douter. Et le truc, c'est que moins on ose, moins on passe à l'action et plus on va perdre confiance en soi parce qu'on aura de moins en moins d'occasions de voir qu'on est capable, de voir qu'on est à la hauteur. Je vous donne un exemple. Si je me dis que je suis nulle pour faire des présentations, que je ne suis pas une très bonne oratrice, il y a de fortes chances que j'évite d'en faire ou que je laisse les autres s'en charger. Du coup, je n'apprends pas. J'ai pas d'occasion de m'améliorer dans ma prise de parole puisque je m'entraîne pas. Par contre, à côté, les autres qui font, qui essayent, qui peut-être échouent, font des erreurs parce que c'est pas parfait dès le début et c'est normal, bah, eux, ils progressent et pas moi. Par contre, quand je dois en faire parce que, je sais pas, par exemple, dans le cadre de mon travail, je suis obligée de faire une présentation devant mon équipe ou devant un client, par exemple, là, j'aurais pas eu l'occasion d'apprendre, de progresser sur le sujet, et je vais toujours avoir cette croyance que je suis nulle pour ça, que je suis nulle pour les présentations. Et donc, le fait d'avoir en plus ces pensées avant et pendant va faire que ça va me générer du stress. Je vais peut-être même mal dormir la veille, ne pas être au top de ma forme le jour J. En plus, c'est plus difficile de gérer son stress, ses émotions lorsqu'on est fatigué, rappelons-le. Et puis, comme je stresse sur le coup, ça me fait bégayer, ça me fait perdre mes mots. Et plus je bégaye et plus je me dis « Oh là là, c'est la catastrophe, je suis nulle », et mon stress s'accroît. Et je deviens rouge et c'est la cata et je performe encore moins bien. Et résultat des courses, c'est que peut-être ça s'est pas trop mal passé finalement, mais comme c'était une expérience tellement désagréable, et puis que j'ai sans doute quand même fait des erreurs, je vais me dire, voilà, en fait, je suis vraiment nulle pour les présentations, et ça va pas du tout m'aider à gagner confiance en moi, même si objectivement ça s'est pas trop mal passé. Ou bien, effectivement, toutes ces pensées et tout le stress que ça a généré, ça m'a fait sous-performer, mais pas parce que je suis moins bonne, parce que je me suis auto-sabotée en écoutant le petit tyran dans ma tête qui m'a envoyé plein de pensées qui ont accru mon stress et qui m'ont pas mise dans de bonnes dispositions pour réussir. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que si on laisse ce petit tyran, ce petit juge dans notre tête commander, on devient notre pire ennemi. Je vous donne un autre exemple qui est tiré de mon expérience personnelle. Pendant un moment, il y a quelques années, j'avais du mal à dormir le soir, à m'endormir, parce que j'avais de l'anxiété. Et j'avais des pensées du type « je dois absolument être en forme demain pour assurer parce que j'ai une grosse journée », ce qui en soi était vrai. Enfin, en tout cas, ça aurait été bien d'être le plus en forme possible pour pouvoir assurer au mieux ma journée du lendemain. Mais le problème, c'est que ces pensées-là, ce « je dois absolument être en forme, il faut que je sois en forme, sinon ça va être la cata », en gros, faisaient que ça me stressait. Je commençais à sentir mon cœur qui battait, j'avais un petit peu de, je ressentais un peu de pression, et donc, forcément, je n'arrivais pas à dormir. Et comme je n'arrivais pas à dormir vite, et que je me disais qu'il faut que je m'endorme vite, qu'il est déjà telle heure, ça me stressait encore plus, ça m'énervait, et donc j'étais encore plus éloignée de l'état de détente dans lequel j'aurais eu besoin d'être pour dormir, et ça finissait à 2h du mat, frustrée, en colère contre moi-même de ne pas réussir à dormir. Donc là, j'étais typiquement dans un comportement d'auto-sabotage, où en fait, mon petit tyran qui croit bien faire en me disant « il faut que tu dormes maintenant pour être en forme demain », il pense bien faire, mais en réalité, il m'emmène à l'opposé de ce qui est important pour moi, qui est de m'endormir, puisqu'il me génère du stress, il me génère de l'anxiété. Et c'est comme dans l'exemple de la présentation, ces pensées-là ne sont absolument pas aidantes. Et maintenant, ça m'arrive encore parfois d'avoir ce type de pensée avant de me coucher, et je sens la pression qui monte. Et le type de pensée qui va m'aider, c'est de me dire j'ai déjà assuré des grosses journées en dormant très peu, donc c'est ok. Et paradoxalement, enfin c'est pas si paradoxal que ça, mais le fait de me dire que c'est pas très grave en fait si je dors peu parce que je vais quand même survivre et ça va quand même bien se passer, ça m'apaise et ça me permet de dormir. Donc vraiment, ce petit tyran dans notre tête ne nous aide pas franchement, ne nous aide pas toujours, contrairement à ce qu'on pense. Parce que c'est quelque chose que je remarque chez beaucoup de mes clientes, c'est qu'elles ont toujours été très exigeantes envers elles-mêmes, elles se laissent rien passer, et elles ont peur au fond que si elles se lâchent la bride, elles vont se laisser aller, que si elles sont douces et si elles sont bienveillantes envers elles-mêmes, elles seront plus motivées à changer, à évoluer, à faire mieux, et voilà, elles vont juste devenir paresseuses. Donc il faut bien se mettre des coups de pied aux fesses pour avancer. Et peut-être que vous aussi, dans votre fort intérieur, vous pensez ça. Vous craignez que si vous arrêtez de vous autocritiquer, tout va partir en cacahuète, en gros. Mais soyons clairs, l'autocritique n'est pas mauvaise. L'autocritique, c'est une sorte d'autoréflexion sur nos comportements, sur nos actions ou nos non-actions. Mais il faut bien comprendre qu'il y a autocritique constructive et autocritique destructrice. Et le piège, c'est vraiment de confondre les deux. Et c'est d'être dans l'illusion que le petit tyran dans votre tête formule des critiques constructives. C'est ça, le piège. Et l'autocritique constructive, ça consiste à se questionner sur soi-même, à analyser objectivement ce qu'on a fait de bien ou de moins bien. Et quand vous êtes dans cette autocritique constructive, vous êtes capable de reconnaître vos échecs, vos erreurs, et vous allez chercher des façons de corriger ça, de faire mieux la prochaine fois. Donc il y a une vraie analyse et une recherche de solutions concrètes pour vous aider à progresser, pour vous améliorer. Par contre, l'autocritique négative ou l'autocritique destructrice, je vais y arriver, on se reproche des choses, on ressasse nos erreurs, on rumine, on se juge pour des choses qu'on a fait, on se dit qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'est pas assez ci, pas assez ça, que les autres sont mieux. Et ça, c'est tout sauf utile. Ça vient, comme je vous le disais avant, ça vient juste plomber votre confiance en vous et vous bloquer. Je vous donne un exemple. Imaginons que je fais une erreur dans un dossier au travail. La critique destructrice, ça serait « Oh là là, j'ai fait une erreur, je suis nulle, on va penser de moi que je suis pas à la hauteur, et on va plus me confier de dossier avec des gros enjeux, etc. etc. » Donc, genre tout ce type de pensée un peu de catastrophisation, d'autoflagellation, qui va venir plomber ma confiance en moi, qui va faire que sur les prochains dossiers, je vais peut-être beaucoup douter de moi, que je vais mettre peut-être beaucoup plus de temps, que je vais être un peu insécure et peut-être faire des erreurs. Et oui, je vais peut-être chercher à corriger mon erreur, mais ça ne va pas m'empêcher de ruminer, peut-être au point même de ne pas réussir à trouver le sommeil le soir. Donc ça va être une critique plutôt destructrice, plutôt négative. Par contre, si j'ai une autocritique constructive, bah, je vais constater que j'ai fait une erreur. Ok, ça arrive, c'est humain, l'erreur est humaine bien sûr, mais là maintenant ce qui est important c'est qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant on fait quoi ? Comment est-ce que je peux réparer ça ? C'est ça la priorité. Et une fois que c'est fait, une fois que peut-être j'ai trouvé des solutions, j'ai réparé mon erreur, ou je me suis excusée s'il n'y avait rien d'autre à faire, eh bien je vais essayer d'analyser pourquoi ça s'est produit, de voir ce que je peux en tirer comme leçon, de voir ce que je peux améliorer, et là c'est utile. Je ne suis pas en train de ressasser le passé, de me mettre des petits coups de fouet dans le dos pour ce que j'ai fait. Je suis dans le maintenant et dans la correction et dans l'amélioration. Et pour m'améliorer, pour faire tout ça, j'ai nullement besoin de mal me parler. C'est pas nécessaire. C'est pas vraiment... Je sais que c'est pas simple quand on a toujours fonctionné comme ça, parce que moi-même c'était le cas, mais je veux vraiment vous le dire, on n'a aucunement besoin de se dévaloriser pour s'améliorer. On peut faire toutes les étapes que je viens de vous dire dans la critique, l'autocritique constructive sans qu'il y ait besoin d'ajouter de l'autoflagellation et de la dévalorisation qui n'aide en rien à part, encore une fois, comme je vous le disais, perdre confiance en vous. L'encouragement est beaucoup plus efficace que la punition ou que la dévalorisation. Avec quelqu'un d'autre, c'est assez facile à imaginer. Si vous êtes avec un ami ou une amie qui est dans cette situation, qui a fait une erreur au travail, ou même avec un collaborateur que vous appréciez, pour l'aider à s'améliorer, pour l'aider à avancer, vous n'allez pas lui hurler dessus, lui dire qu'il est nul, ou elle est nulle, qu'elle est bon à rien. Non, la personne, si vous faites ça, va se sentir mal, va perdre confiance en elle, et c'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est que la personne ait la motivation de continuer à avancer. Ce qu'on cherche, c'est qu'elle s'améliore. Et vous voyez bien que la dévalorisation, ça va à l'encontre de tout ça. Ça marche pareil avec des enfants. Si vous le critiquez, vous lui criez dessus, vous lui dites d'arrêter de faire ça, de faire comme ci, comme ça, qu'il est pas sage, etc., ce n'est pas ce qui va l'aider à changer son comportement sur la durée. Alors bien sûr, il va peut-être le faire sur le coup, par peur de la punition, par peur de moins être aimé par le parent, mais est-ce qu'il aura, il ou elle, hein, bien sûr, je dis l'enfant, un enfant, mais il ou elle aura pris le recul nécessaire, aura compris, et aura vraiment la motivation interne, intrinsèque de changer, sans doute pas. Et c'est pareil avec nous, donc arrêtons de croire qu'il faut se punir, qu'il faut s'autoflageller pour s'améliorer. Arrêtons d'être aussi exigeants et exigeantes avec nous-mêmes, alors qu'avec les autres, on est compréhensif, alors que les autres, on leur laisse le droit à l'erreur. Non, on mérite la même bienveillance qu'on est capable d'avoir envers les autres. Et ça change tout. On entend beaucoup parler de relations toxiques, mais honnêtement, il y a des gens qui ont des relations toxiques avec eux-mêmes. Donc le fait de se parler avec bienveillance et avec compréhension et avec douceur et de se soutenir et de s'encourager, c'est aussi avoir une relation saine avec soi-même. Donc si vous aussi vous avez pris conscience que vous avez un petit tyran dans la tête, que vous avez une petite voix intérieure qui vous parle mal, eh bien je vous invite à écouter la suite parce que je vais vous proposer des clés concrètes à pratiquer pour retrouver un petit peu de paix intérieure. Petit avertissement avant de commencer, ça ne se fait pas en un jour. Si vous êtes mal parlé toute votre vie, transformer votre dialogue intérieur va prendre du temps, de la pratique, mais ça vaut le coup. Et donc la première étape, c'est vraiment de reconnaître déjà ces pensées que vous avez envers vous-même, ces pensées jugeantes, ces autocritiques, parce que comme je vous le disais un peu plus tôt, parfois on a tellement l'habitude de se parler comme ça qu'on ne se rend même plus compte de ce dialogue intérieur difficile que l'on peut avoir. Donc ce que je vous invite à faire, c'est prêter attention à votre dialogue intérieur, à ce que vous raconte le petit tyran dans votre tête. Et ce qui peut aider, c'est de commencer par vos émotions. Parce que souvent, on se sent un peu... On a un sentiment de honte, on a un sentiment de culpabilité, où on se sent pas bien, on se sent gêné, on se sent déçu, on ressent du stress, de l'anxiété. Mais avant ça, avant ces émotions, ces sentiments-là, il y a eu des pensées. Il y a quelque chose, que vous en ayez pris conscience ou pas, qui vous a traversé l'esprit. Donc demandez-vous, quand vous avez ce type de sentiment, d'émotion désagréable, demandez-vous ce que vous êtes en train de vous dire à propos de vous-même, à propos de la situation, à propos de ce qui pourrait se passer, etc. Je sais que c'est sans doute vraiment l'étape la plus difficile, mais réellement prendre conscience de ce dialogue intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, c'est la toute première étape pour pouvoir travailler dessus et pour pouvoir changer les choses. La deuxième étape, c'est de prendre un petit peu de distance avec cette voix intérieure. Donc je sais que c'est aussi une étape qui n'est pas évidente, mais moi ce que je trouve assez aidant, c'est de donner un nom à mon petit juge intérieur. Alors moi, j'ai appelé cette partie de moi parce que c'est une partie de moi, c'est pas moi, c'est une partie de moi qui parfois fait du bruit dans ma tête. Et son petit nom, c'est Sharon ou le juge, ça dépend des jours. Et quand je remarque que j'ai des pensées un petit peu dures envers moi-même, je me dis « Ah tiens, c'est Sharon !» Ça me permet de prendre un tout petit peu de distance avec ces pensées-là, avec ce qu'elle me raconte, et de pas prendre tout ce qu'elle me dit pour argent comptant. Je vous le dis souvent ici, mais c'est pas parce que votre cerveau dit quelque chose qu'il faut le croire sur parole, ou que c'est un ordre, ou que vous êtes obligé de satisfaire toutes les exigences de ce petit tyran intérieur, pour qui de toute façon ce sera jamais assez, disons-le, parce que la perfection n'existe pas. Non, on peut lui dire non. On n'est pas obligé d'obéir à nos propres pensées. Je vous donne mon exemple. Mon petit tyran à moi, il aime bien me dire très souvent qu'il faut que je fasse plus. Il faudrait que je fasse un épisode par semaine au lieu de toutes les deux semaines. Il faudrait que je publie beaucoup plus souvent sur Instagram. Il faudrait que je prenne plus de clientes parce qu'il y a des personnes sur la liste d'attente, etc. Sharon, elle vient souvent avec ce type de refrain. Est-ce que ça me génère du stress sur le coup? Oui. Est-ce que je l'écoute et je le fais? Non. Non. Je lui dis non. Merci Sharon, mais j'ai le droit de me reposer, j'ai le droit de prendre soin de moi, j'ai pas à culpabiliser de faire ça. Bien sûr, elle insiste, mais je tiens bon. Je lui tiens tête parce que sinon je serais tout le temps en train de faire mille trucs, d'être toujours stressée, d'être anxieuse, de mettre la pression, à vouloir satisfaire tout le monde, à m'épuiser, et je serais bonne pour aller au burn-out. Donc oui, c'est inconfortable, parce que en fait, cette petite part de moi, cette Sharon, ce qu'elle veut au fond, c'est que je fasse plus, parce qu'elle croit que si je fais pas plus, eh bien je vais peut-être décevoir des gens, peut-être qu'on m'aimera moins, etc. Donc oui, ne pas l'écouter et me respecter et me prioriser, ça veut dire aussi dépasser ces peurs-là. Et je vais généraliser un petit peu, mais quand on se met la pression, quand on se fait des reproches, c'est souvent au fond parce qu'on a peur qu'à cause de nos défauts, à cause de nos imperfections, à cause de nos failles, de nos travers, de nos faiblesses, on nous aime moins. Si vous vous refaites une conversation que vous avez eue avec quelqu'un et que vous dites « Oh là là, j'aurais jamais dû dire ça, qu'est-ce que la personne va penser de moi ?» Bah oui, il y a sans doute derrière la peur que la personne vous aime moins, vous apprécie moins, vous trouve pas sympa, etc. C'est aussi sur ça qu'on travaille en coaching. En tout cas, pour résumer cette deuxième clé, c'est de prendre un petit peu de distance avec vos propres pensées, parce que ce sont des pensées. Et les écouter, leur donner trop d'attention, ne vous rend pas toujours service. Troisième étape, c'est d'accepter. C'est d'accepter d'avoir ses pensées. Je vous le disais juste avant, moi Sharon, elle est toujours là. Bien sûr, avec les années, les outils, la pratique, elle est beaucoup moins présente, elle vient beaucoup moins me polluer, on va dire. Mais il y a toujours des fois où, par exemple, je suis fatiguée, je suis dans une situation stressante, où elle va venir. Et c'est ok. Je ne contrôle pas les pensées qui émergent dans ma tête. Ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai le contrôle. Par contre, j'ai le contrôle sur comment j'y réagis, si je lui donne de l'importance, si j'exécute ses ordres ou pas. Ça, j'ai le contrôle dessus. Mais la première pensée automatique que je vais avoir, j'ai pas le contrôle dessus. Donc n'essayez pas de rejeter vos propres pensées, de dire « Ah non, je suis encore en train de me critiquer, je devrais pas, etc. » Non, ces pensées, vous ne les contrôlez pas, elles émergent dans votre tête, c'est comme ça. Donc ne vous jugez pas parce que vous vous jugez trop. Ça serait complètement contre-productif. Acceptez juste que vous avez des pensées critiques et qu'à force de ne pas les écouter, eh bien, elles diminueront tout simplement, ou pas, ça se passera en son bon temps, mais essayez au maximum de laisser couler ces pensées-là, et encore une fois, elles ne sont pas un problème si vous ne les prenez pas pour argent comptant. Vous pouvez avoir la pensée « je ne suis pas légitime, et vous dire, bah si, en fait, si je suis légitime, j'ai été formée, j'ai été recrutée sur ce poste parce que j'ai eu des réussites ou pour telle ou telle raison, et puis j'ai eu des bons résultats jusque-là, donc a priori, je suis légitime. Bien sûr, il y a des personnes meilleures que moi, bien sûr, parfois je fais des erreurs, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui n'est pas légitime sur ce poste. Et du coup, j'ai spoilé le quatrième point, la quatrième clé que je voulais vous partager, qui est justement de répondre à votre petit tyran intérieur, de ne pas le laisser vous dominer et de choisir de vous parler avec bienveillance, de vous parler avec respect, de vous parler comme vous parleriez à quelqu'un que vous appréciez. Demandez-vous, ça c'est une question qui est toujours super utile, qu'est-ce que vous diriez à une amie ou à un ami, à quelqu'un de proche que vous aimez, que vous avez envie de voir réussir, que vous avez envie de voir évoluer, que vous avez envie de voir heureux ou heureuse? Qu'est-ce que vous diriez à cette personne qui est dans cette situation? Si votre amie vous dit qu'elle est trop crevée pour sa séance de sport d'une heure qu'elle avait prévue, vous allez certainement pas lui dire de se bouger ses grosses fesses pour qu'au final elle se force à faire sa séance de sport dans la douleur, ou pour qu'elle la fasse pas mais que du coup elle culpabilise et qu'elle arrive même pas à vraiment se reposer alors que c'est ce dont elle a besoin. Non. Vous allez lui dire de prendre soin d'elle. Là, si elle est fatiguée, c'est qu'elle a besoin de se reposer et elle a le droit d'être fatiguée et elle a le droit aussi au repos. Et elle sera en forme pour faire sa séance le lendemain, ou elle peut faire quelque chose de beaucoup plus court ou de beaucoup plus doux aujourd'hui si elle se sent, et sinon qu'elle respecte son besoin de repos. Donc essayez d'adopter ce même discours que vous auriez pour les autres, pour vous-même. Qu'est-ce que vous pourriez vous dire qui serait plus utile, plus aidant, plus constructif? Si je reprends l'exemple de la présentation, imaginons que du coup vous avez raté votre présentation, que vous n'avez pas pu projeter votre PowerPoint, que vous n'avez pas été super convaincant pendant la présentation et puis qu'il y avait des questions auxquelles vous ne saviez pas répondre, bah, au lieu de vous dire « je suis nulle, tout le monde a dû penser que j'étais ridicule ou incompétent », qui est, je vous le rappelle, une critique destructrice qui n'est pas utile pour vous améliorer, c'est pas nécessaire de passer par là pour mieux faire, eh bien vous pouvez analyser objectivement ce qui s'est passé et ce que vous pourriez faire pour améliorer les choses. Mais faites-le de manière analytique plutôt que de manière inquisitrice. Demandez-vous pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à projeter votre PowerPoint. Et pas « mais pourquoi j'ai pas réussi à projeter mon PowerPoint ?» En fait, la manière dont vous posez cette question, elle est importante aussi. Je vous invite à vous poser cette question pour trouver une réponse, pour trouver une solution. Et pas comme un moyen de vous auto-flageller. Donc vraiment, ouais, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Peut-être que vous n'aviez pas le bon câble, tout simplement. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à être convaincant? Et vraiment, quelle est la réponse? Et du coup, quelles peuvent être les solutions à apporter? Et ensuite, essayez d'avoir un plan d'action pour vous améliorer. Peut-être que vous pourrez vous préparer plus en amont, que vous pourrez préparer une liste des questions qu'on est susceptible de vous poser et déjà de préparer des réponses. Peut-être que vous pourrez suivre une formation de prise de parole et de persuasion, par exemple. L'important, c'est de se tourner solution et pas, encore une fois, auto-flagellation. Accepter de faire des erreurs, les erreurs ça fait partie de la vie, on ne peut pas les éviter. Comme on dit souvent, c'est un peu bateau, mais c'est vrai, c'est en tombant qu'on apprend à marcher. Les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Alors bien sûr, on ne veut pas faire des erreurs inutiles, mais en faire c'est normal, ça vous donne des informations qui sont précieuses et ça vous permet de tirer des leçons qui sont importantes. Mais je sais que c'est pas forcément évident, et sur le sujet, je vous recommande d'ailleurs l'épisode 67 qui s'appelle « Retrouver confiance en soi après un échec ». Et je vous recommande également l'épisode, enfin c'était un épisode hors série, Ask numéro 8, je crois, qui s'appelle « J'ai fait une erreur au travail, comment gérer ?» où je donne vraiment un plan d'action pour réagir en cas d'erreur, tout simplement. Et celui-ci, il date du 5 mai 2022. Dernière chose que je veux vous partager, je vous disais de répondre à ce petit tyran dans votre tête avec des paroles plus bienveillantes, plus constructives, mais aussi je vous invite vraiment à prendre le temps de vous concentrer sur ce qui s'est bien passé. Parce que bien trop souvent, on se focalise sur nos erreurs, sur nos défauts, sur nos faiblesses, et on prend très peu de temps pour s'attarder sur ce qu'on a réussi à faire, pour se féliciter de nos réussites, et ça crée un déséquilibre, parce que forcément, on voit tout ce qu'on fait de pas bien, et par contre, ce qu'on fait de bien, hop, on l'évacue rapidement. Or, selon moi, avoir une estime de soi qui est saine, ça veut dire bien sûr avoir conscience de nos failles, mais aussi reconnaître nos forces. C'est pas juste l'un ou juste l'autre, parce que dans un des cas, on a une faible estime de soi, et dans l'autre, on a une estime de soi surgonflée, un ego surdimensionné, et ce n'est pas sain non plus. Donc l'idée, c'est d'avoir une vision juste de vous-même, et pour ça, vous ne pouvez pas constamment balayer d'un revers de main vos réussites et ce que vous accomplissez. Donc arrêtez de minimiser vos accomplissements, arrêtez de minimiser vos qualités, et prenez le temps de vous attarder un petit peu sur ce qui s'est bien passé, et ce, même dans des situations où il y a eu un couac. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Peut-être que vous n'avez pas été super convaincant ou convaincante pendant cette présentation, mais que vous avez réussi à garder votre sang-froid et à continuer quand même, même si les choses ne se passaient pas comme prévu. Et c'est ça aussi, être objectif. C'est reconnaître ce qui va bien et ce qui va moins bien. Et vous verrez qu'à terme, ça va vraiment vous permettre d'atténuer le petit tyran qui est dans votre tête, et ça va vous permettre d'améliorer votre relation avec vous-même pour vous sentir un peu plus sereine. Donc je vous invite vraiment à pratiquer ces différentes clés, ces différents conseils que je vous ai partagés. Il n'y a que la pratique qui peut changer les choses, et ça prend du temps, donc il faut aussi être patient. Mais vous verrez qu'à force de pratiquer, eh bien, cette petite voix dévalorisante dans votre tête va s'atténuer avec le temps, et surtout que vous parlez avec bienveillance, ça deviendra beaucoup plus naturel et vous aurez de moins en moins besoin de vous rappeler les différentes étapes que je vous propose dans cet épisode. Et bien sûr, si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche pour aller plus vite, pour changer les choses en profondeur et durablement, eh bien, j'ai créé un programme de coaching spécial qui s'appelle Libre et qui va vous aider à vous libérer de ces pensées négatives, qui va vous aider à retrouver confiance en vous, à améliorer votre estime de vous et à retrouver un peu de sérénité intérieure. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez voir comment on peut travailler ensemble, je vous invite à réserver un appel découverte offert ou à rejoindre la liste d'attente s'il n'y a plus de dispo pour le moment. Et on pourra échanger ensemble sur tout ça. En attendant, je vous invite cette semaine à faire preuve de bienveillance, d'indulgence, de compréhension envers vous-même. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles au podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça me fait toujours super plaisir et ça aide d'autres personnes à découvrir le podcast. Et merci à toutes les personnes qui l'ont déjà fait. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, soirée, semaine. Et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao !